Bonsoir, dialogue entre Congolais de ce soir et bien avec des analystes sur la situation politique qui prévoit actuellement en RDC. Ce mardi, certains sièges des partis politiques de l'opposition ont été incendiés. Des affrontements entre des groupes de jeunes et la police ont été aussi signalés dans plusieurs coins de la capitale. Pendant ce temps, le facilitateur du dialogue politique a annoncé la suspension des travaux. Comment analyser cette situation sur le thème de ce mardi 20 septembre 2016 pour en parler? Je reçois dans cette émission pour le débat professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la Faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jean-Jacques Ondo, expert en questions militaires et analyste politique. Monsieur Ondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de M. Ignace Ndala de Kolwezi dans le Lualaba. J'estime que nous sommes dans une situation très grave. La machination, la vengeance, l'incivisme et toute autre forme de barbarie constatée de part et d'autre montrent que nous avons une société dont les membres sont loin d'un consensus. Seule l'inclusivité du dialogue ramènera la paix, car toutes les parties pourront s'engager. Ce dialogue suspendu n'est pas celui de la paix. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapu.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un calme précaire règne depuis cet après-midi dans la ville de Kinshasa, en dépit des quelques coups de feu sporadiques encore entendus. Bien que timide, le trafic urbain a repris et quelques petits marchés ont finalement réouvert dans quelques quartiers de la capitale. Mais la police, appuyée par l'armée, maintient toujours son dispositif dans des endroits stratégiques de la ville pour parer à toute éventualité. Le tableau de la situation avec vous, Gabriel Ouaménien.
Le calme s'installe progressivement dans les communes de Kimbanseke à l'est et Ngaliema à l'ouest, théâtre des violences ce mardi matin. Par contre, dans la commune de Lemba, un peu plus au sud de la capitale, des coups de feu sporadiques se sont poursuivis jusqu'en début de la soirée. Les habitants qui sont toujours terrés chez eux affirment que c'est la police qui riposte par des tirs de sommation aux provocations des jeunes qui tentent de manifester. Au niveau du campus de Kinshasa, dans la commune de Lemba, plusieurs centaines d'étudiants regroupés sur les monts Amba jusqu'au plateau des étudiants se sont retirés dans les sites universitaires, mais on signale les pillages d'un coffre-fort contenant de l'argent et appartenant à une station-service proche de l'université. Entre les carrefours, communément appelés DGC et Pompage, nous sommes dans la commune de Ngaliema, la situation est redevenue calme. Dans la commune de Selembao, la police a renforcé sa présence tout autour de la prison centrale de Makala. Il est difficile pour l'instant d'établir un bilan des événements survenus ce mardi dans les différents quartiers de la ville de Kinshasa, mais signalons que la quasi-totalité des écoles de la capitale ne fonctionne pas depuis lundi et les boulevards du 30 juin restent fluides contrairement aux jours de la semaine.
Merci Gabriel Ouaménia. Et suite aux manifestations d'hier lundi, les sièges de certains partis politiques de l'opposition et de la majorité ont été incendiés, parmi lesquels le siège de l'UDPS tôt ce matin. Et à ce propos, son porte-parole affirme que l'incendie a occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Bruno Tshibala condamne avec fermeté ces actes de banditisme, des violences et des barbaries à l'endroit des partis politiques de l'opposition. L'UDPS compte saisir la justice internationale pour que les responsabilités soient établies. Bruno Tshibala a été joint par Jean-Désiré Kanyama.
Aux environs de 3h du matin, une cohorte de militaires armés jusqu'aux dents s'est attaquée à la permanence de l'UDPS, mais aussi décidée du MLP et du FONUS. Nous étions informés qu'ils allaient attaquer notre siège. Nous savons comment s'est passé les préparatifs et la planification. Et donc nous comptons saisir la justice internationale parce que les responsabilités doivent être établies. Il s'agit bel et bien d'un acte prémédité, ces actes de banditisme, de violence et de barbarie du pouvoir en place. Nous déplorons des morts, des dégâts importants. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous nous sommes battus pendant plus de 36 ans pour qu'il y ait la démocratie, l'état des droits, la bonne gouvernance.
Et le porte-parole du gouvernement dénonce et condamne les attaques contre les permanences de certains partis politiques d'opposition cette nuit. Lambert Mende demande au procureur général de la République d'élargir son enquête sur les crimes de cette nuit, mais aussi sur la responsabilité des forces de sécurité. Il déplore aussi des tentatives d'épillage signalées ce matin vers Massina et Ngaba et qui ont été étouffées par la population. On l'écoute au téléphone de Michel Kifinda.
Les victimes des agissements criminels d'hier ont pris la résolution, semble-t-il, de se faire justice à eux-mêmes et des permanences des partis politiques qui ont appelé les casseurs d'hier à passer à l'acte ont été incendiées. Le gouvernement ne peut que condamner cette attitude de justice populaire. Nous encourageons le procureur général de la République à poursuivre son enquête et sur les faits d'hier et sur les faits de cette nuit. Le gouvernement appelle les gens à retrouver leur calme et à laisser la justice faire son travail.
Et comment expliquer que les permanences de l'opposition soient attaquées cette nuit alors que la police était suffisamment déployée?
Mais hier aussi la police était suffisamment déployée, ça veut dire que la police était débordée. Et donc nous allons demander une enquête aux dirigeants de la police pour qu'ils nous rendent compte de cela. Et le travail du procureur général de la République va aussi s'étendre jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il y a une responsabilité des forces de l'ordre dans le maintien de l'ordre public.
Professeur Félicien Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Depuis hier lundi, la situation politique en RDC est très tendue. Plusieurs sièges des partis politiques de la majorité présidentielle ont été incendiés hier par des manifestants de l'opposition qui réclamaient la convocation du corps électoral pour le scrutin présidentiel. Et ce mardi, c'était autour des sièges des partis de l'opposition, comme l'UDPS, MLP et CIDE, FONUS, a été incendié par des hommes armés, selon le secrétaire national de l'UDPS. Comment vous analysez cette situation?
Merci, Kelly. Je voudrais d'abord commencer par exprimer toute ma compassion à l'endroit de toutes les familles qui ont perdu le leur, parce que les personnes qui sont décédées ont pensé qu'elle méritait de vivre dans un Congo civilisé, prospère et démocratique. On aurait dû éviter donc cet écoulement inutile de sang. Hélas, ils sont partis. Combien sont-ils morts? Personne ne le sait aujourd'hui. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a, au niveau du gouvernement, certaines erreurs de communication. Car, même quand on est un pillard, on a droit à la vie. Présenter que ceux qui sont morts parce qu'il y a des pillards, a été, de mon point de vue, une erreur de communication. Alors, venons-en à tirer quelques leçons. La première, c'est que le point de départ, le péché originel, réside au fait de n'avoir pas organisé les élections dans le délai. C'est là le péché le plus abominable. Et sans doute, l'élément déclencheur de toutes les violences actuelles. Et il va sans dire que le gouvernement Matata, qui est le gouvernement actuel, va rester dans l'histoire, une belle histoire. La deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est celle de la médiation. En fait, on s'est toujours posé la question pourquoi la médiation a voulu, a carrément pris la décision de pouvoir organiser le dialogue avec une partie de l'opposition, laissant le rassemblement au bord de la route. Même s'il est vrai que le rassemblement demandait le départ du médiateur et d'Amkoudio, bien, l'éthique du médiateur veut que celui-ci se retire s'il réalise qu'il devient véritablement l'obstacle au règlement du conflit. Et là, véritablement, je regrette que d'Amkoudio n'ait pas pris de la hauteur. Par contre, à un moment donné, on avait comme l'impression il a voulu jeter des colibés au rassemblement. Non. Eden aurait pu se retirer pour enlever tout prétexte à l'opposition de participer au dialogue. Pour ne l'avoir pas fait, voilà aujourd'hui les conséquences. Et cette conséquence, cette voulait cette responsabilité est aussi assurée par l'Union africaine qui l'avait désignée. Parce qu'il faut dire que l'Union africaine qui avait désigné Kodjo s'est pratiquement fait discréditer auprès de du rassemblement. Il avait bien saisi. Il fallait que l'Union africaine vienne, rapproche, si vous voulez, approche le rassemblement pour pouvoir trouver un consensus. Malheureusement, on a laissé le train du dialogue partir sans le rassemblement. Et les conséquences aujourd'hui sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Mon étonnement est aussi celui de voir la majorité bâtir sa stratégie sur, si vous voulez, le pourrissement du temps. Et en fait, sur la théorie du fait accompli. Et le coût de cette stratégie est sans doute très élevé aujourd'hui. Ce qu'il faut dire par là, que les stratagèmes de la majorité ne semblent plus fonctionner. Je crois qu'ils doivent revoir leur stratégie. La stratégie actuelle qui est bâtie sous le pourrissement du temps et sous le fait accompli semble être plus difficile à réaliser et à atteindre ses objectifs.
Alors, professeur, faut-il recourir à la violence pour faire entendre sa voix?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. La violence ne résout pas les problèmes. Et d'ailleurs, le dialogue avait été conçu comme, si vous voulez, un mécanisme de prévention des violences. C'est pourquoi il fallait organiser le dialogue. Et c'est pourquoi il fallait que dans ce dialogue, toutes les parties soient aidantes. Le fait qu'une des parties, d'ailleurs pas la moindre, soit en dehors, a aujourd'hui occasionné de violences.
Mais plusieurs fois on a tendu la main à cette partie de l'opposition qui récuse le facilitateur. Plusieurs fois on a tendu la main. Et même pendant que le dialogue a commencé, on a encore appelé cette opposition à venir participer aux travaux.
Évidemment. Il y a là un préalable posé par l'opposition, qui est celui de voir le médiateur partir. Je crois que le médiateur ne pouvait pas attendre que l'Union africaine le mette dehors, qu'il se serait retiré lui-même. Et il y a aussi là un problème au niveau de l'opposition. On ne peut pas tout demander et tout obtenir. Il faut poser des préalables et attendre que certains préalables soient réalisés. Vous faites une évaluation de préalables, et après lesquels... Donc, après l'évaluation, vous allez vous décider de participer. Il me semble qu'on ne peut pas tout obtenir en termes de préalables. Il faut, à un moment donné, évaluer si, oui ou non, les préalables ont été accomplis. Et là, il faut dire que parmi les préalables, il y en a quand même qui valent la peine. Si vous regardez, l'une des grandes candidatures, c'est Moïse Katumbi. Alors, va-t-on organiser un dialogue auquel ne fait pas partie tous les clans de Moïse Katumbi, qui est l'une des grandes candidatures. Vous avez également Tshisekedi. Va-t-on organiser un dialogue auquel l'une des grandes candidatures, qui est Tshisekedi, ne fait pas partie. Là, véritablement, est la question du dialogue. Quelle est, si vous voulez, la légitimité de personnes qui, aujourd'hui, siègent au sein de ce qu'on appelle dialogue.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, quelle est votre lecture à vous de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo? Une situation assez tendue quand même.
Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez d'imposer. Mais avant toute chose, je voudrais exprimer mes regrets pour les vies humaines qui sont tombées. Et j'en profite aussi pour présenter les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes regrets pour les victimes des différents pillages. Parce que dans un État civilisé, moderne et démocratique, on ne pouvait pas s'imaginer un seul instant de vivre à des scènes de haute barbarie comme nous l'avons vécu hier et aujourd'hui dans la capitale de notre cher et beau pays, le Congo. Alors, revenant maintenant à votre question, je voudrais aussi me poser une question. Est-ce que fallait-il en arriver là? Et nous pensons que la RDC ne mérite pas ce sort. Et Si nous sommes arrivés là-bas, c'est tout simplement parce que le professeur Bob venait de le dire.
Félicien.
On n'a pas réussi à respecter la constitution, les dispositions constitutionnelles. Et c'est ici le lieu pour moi de faire une déclaration telle que tant que nous serons incapables de respecter la constitution, les dispositions légales et réglementaires qui nous régissent, nous continuerons toujours à vivre ces scènes macabres. Et c'est vraiment regrettable. Alors, la police ou le gouvernement dispose de beaucoup de moyens pour disperser les manifestants et les contenir. On ne pouvait pas un seul instant s'imaginer qu'on arriverait à l'usage de balles réelles pour tuer les paysans, pour tuer les citoyens. Il est un droit pour chaque Congolais de s'exprimer et de chercher à ce que nous puissions vivre quand même dans des situations normales. Mais ce qui est arrivé est regrettable. Alors, messieurs les facilitateurs Edem Kodjo, vous l'avez dit, a décidé de suspendre les travaux. Et je me dis ceci, s'il avait vraiment le sens de l'honneur, le sens de la dignité, plutôt que de suspendre les dialogues, Edem Kodjo ferait mieux de démissionner.
Et finalement, allait tout reprendre à zéro après sa démission, professeur Jeff Mudimbi?
Oui, parce que il n'est plus un secret pour personne. Et je peux l'affirmer sans embâge, le dialogue tel qu'il a été organisé, le président de la République lui-même avait souhaité que le dialogue soit inclusif. Mais pour le moment, le dialogue ne l'a pas. C'était un dialogue vraiment partiel. C'est pourquoi je me permets d'affirmer que le dialogue n'a été ni moins ni plus qu'une distraction organisée pour justifier la légitimité des institutions et de leurs animateurs au-delà du délai constitutionnel. Alors, oui madame.
Oui professeur, vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de respecter le délai constitutionnel et d'organiser les élections dans le délai?
Je pense que si on joue au franc jeu, il y a lieu de limiter les dégâts. Parce que, madame, rassurez-vous, depuis que l'on a commencé le processus d'enregistrement des électeurs, et ça fait déjà un certain nombre de jours, de mois qui passent, et pourtant, si on pouvait déployer le matériel avec le soutien de tous les partenaires sur l'ensemble du territoire, je pense que on aurait constitué l'électorat dans le meilleur délai, plutôt que d'attendre de commencer d'abord par une province, après celle-là, on vient. Et puis, c'est parce qu'on ne veut pas dire la vérité à la population congolaise. Combien de gens sont enregistrés dans les différents bureaux jusque-là? Alors, vous sentez qu'on traîne le pas et on cherche toujours à justifier. Et c'est ça ce qui est regrettable pour notre pays, parce qu'on vise beaucoup plus les intérêts, alors à ce moment-là, on trouve toujours des justifications, même à des choses que la raison ne peut pas admettre.
Mais on a suivi les experts en matière électorale au dialogue qui ont dit que c'était pratiquement impossible d'organiser les élections dans le délai actuellement. Il faut, si on tient à la réforme du fichier électoral, il faut attendre 10 mois ou 16 mois. 16 mois, c'est ce que la CENI propose.
Oui, c'est parce qu'on se fie au schéma de la CENI. Mais si, madame, on pouvait déployer le matériel dans toutes les provinces, depuis le mois de juillet, je suis sûr et certain que, ne perdons pas la mémoire, nous avons organisé les élections en 2006, il y a eu enrôlement des électeurs. Mais posons-nous la question, cet enrôlement-là a pris combien de temps? Est-ce que l'enrôlement en 2006-là avait pris plus d'une année? Non. Et il suffit seulement de déployer le matériel au même moment et dans l'ensemble des provinces. Il y aura l'engouement peut-être la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine, mais à la quatrième semaine, il n'y aura plus d'engouement et il y a lieu vraiment que nous puissions constituer un électorat avant décembre.
Merci, professeur Jeff Mutimbi. Jean-Jacques Hondo, expert en questions militaires et analyste politique. Monsieur Hondo, vous êtes aussi d'avis que la situation politique tendue actuellement en RDC est due au fait que la constitution n'a pas été respectée?
Bonjour Madame Kouté, permettez-moi de présenter les condoléances aux familles éprouvées parce que ce qui se passe actuellement au Congo est innommable. Donc on ne peut pas accepter qu'un pays qui après 10 ans d'expérience démocratique arrive sur un point du départ. Pour répondre à votre question, je pense que je ne pourrais pas sortir ou m'éloigner des réponses données par les intervenants précédents pour la simple raison que cette crise ou cette situation qu'on vit aujourd'hui au Congo, il faut replacer la crise dans son contexte politique originaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations se trouvent dans la rue et quel message transmet cette population? Et que veut cette population? Ni moi, ni plus ni moins, excusez-moi madame, que le respect de la Constitution. Et c'est ça la base de la situation actuelle. Une situation qui était prévisible. Tous les signaux d'alerte ont été émis par les analystes prédisant des événements sanglants et apocalyptiques, mais rien n'a été pris, rien n'a été mis en place pour les éviter. Et la première responsabilité incombe aux autorités censées d'assurer d'abord l'ordre public, la cohésion nationale et le bon fonctionnement des institutions. Cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où on met les gens face à un fait accompli, dire que voilà, nous sommes dans une possibilité technique organiser les élections, il faut accepter les choses dans l'État, allons négocier, allons faire un accord politique dont, qui nous donne aucun gage que cet accord sera respecté et nous permettra d'organiser les élections dans le délai qui soit acceptable par tous. Il faut aussi relever le fait que quand on voit les scènes de violence qui se déroulent actuellement dans les rues de Kinshasa, la réaction disproportionnée et des forces de sécurité contrevient aux règles des droits humanitaires sur l'usage des moyens de violence. Et cet aspect illustre quelque chose de planifié. C'est comme si dans les manifestations, je pourrais revenir un peu plus tard avec des éléments, des témoignages, on a amené les manifestants vers un guet-apens pour pouvoir justifier la répression à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que tout a été mis en place, on a des informations assez convergentes qui montrent que certains manifestants ont été infiltrés par des ex-démobilisés et que hier, par exemple, quand j'ai fait le tour à des contacts avec certaines autorités, aussi de la garde républicaine et de la police, et une autre autorité de la police m'a dit « Monsieur Hondo, je vous dis mot pour mot, ce qui se passe à Kinshasa, ce ne sont pas des policiers, mais ce sont des éléments de la garde républicaine injectés dans la police qui réprime les manifestants. Et cela a été planifié par à un niveau plus élevé.
Mais la police a réagi lorsque les gens ont commencé à piller.
Non. Mais qui ont pillé? Est-ce qu'on a eu des enquêtes? Je vous dis que les informations qui ne viennent pas de moi, mais des autorités de la police et de certains membres de la garde républicaine nous disent qu'on a infiltré dans certains coins les manifestants, les poussant à tirer ou à commettre des actes pour justifier la répression de sorte à agir pour disperser les manifestants et qui n'arrivent pas au but qui était prévu à les remettre les mémorandums à la CENI ou le préavis. Et je pense qu'il faudrait une enquête assez minutieuse pour établir les responsabilités. Et à ce niveau, on ne peut pas se fier aux déclarations qui sont faites, mais on doit rester vigilant et ne pas se laisser berner par, excusez-moi le terme, par tout ce que c'est dit actuellement. Parce que les informations à notre disposition ne sont pas celles qui sont parfois diffusées par les autorités. Donc il faut rester vigilant. En dernier lieu, c'est pour conclure cette partie, il faut aussi indexer la mollesse de la communauté internationale. Dans l'approche actuelle, dans la crise congolaise, étale son échec. Et aujourd'hui, cette communauté internationale risque de retrouver le Congo dans la situation qu'elle a connue en 1999. C'est-à-dire que tous les efforts consentis, quand vous voyez le budget de la MONUSCO qui dépasse les milliards, avec cet événement, nous arrivons pratiquement à un point de non-retour qui risque de ramener le Congo vers ce Dieu de mort, c'est-à-dire la situation qui prévalait entre 1997 et 1902. Donc, tout cela aurait pu être évité si la communauté internationale avait maintenu une certaine posture de fermeté.
Merci, monsieur Ondombo. Dans la parole tout à l'heure pour le professeur Félicien Kabamba, on a une question pour vous ou une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Maître Dieudonné Kunde Tshibang du barreau de Kinshasa Matete. À mon avis, le droit de manifester étant constitutionnellement garanti, je ne trouve aucun inconvénient pour le rassemblement d'appeler à manifester. Cependant, il y a lieu de constater que l'objet pour lequel la marche a été convoquée reste impossible à atteindre au regard de l'indisponibilité du fichier électoral fiable. Par conséquent, la marche devient sans objet. Toutefois, nous déplorons des pertes en vies humaines, des pillages, incendies, etc. et invitons tous les acteurs politiques à privilégier la voie du dialogue, car ce ne sont pas des marches, incendies, pillages, meurtres ou que sais-je encore, qui nous donneront un calendrier pour des élections crédibles cette année.
Professeur Félicien.
Alors là, il pose une question qui fait l'objet de, qui devait faire l'objet du dialogue, qui fait encore l'objet du dialogue aujourd'hui, la question de la tenue de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est encore possible de la tenir dans le délai? Eh bien, les experts ont donné leurs avis. Il était donc de bon aloi que les différentes forces politiques et sociales se retrouvent et règlent la question, en faisant bien entendu ressortir les responsabilités. Parce que si on en est arrivé là, il y a un responsable. Mais au-delà des responsabilités, il fallait trouver des solutions. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'une des forces sociales, l'une des forces politiques, je veux dire, dit en dehors du dialogue, il fallait continuer à négocier avec elle pour que le compromis, que le consensus soit un consensus plus large et plus global. Faute de l'avoir fait, si vous voulez, le médiateur a essayé de le faire, mais à un moment donné, il a été récusé. Et donc, on a là affaire à une situation d'un dialogue qui ne pourra pas déboucher sur un compromis acceptable par tout le monde. Donc là, franchement, il est vrai que, étant donné le temps qui reste, il sera très difficile de tenir le délai, mais il faut qu'il y ait absolument un compromis, un consensus de la classe politique. Et c'est le dialogue qui était le cadre le plus approprié pour trouver ce consensus. Le dialogue qui est organisé maintenant, mais ne semble pas un cadre idéal. Un cadre, étant donné qu'il n'a qu'une partie des acteurs, n'est pas ce cadre qui va véritablement nous donner une solution durable, le consensus durable que nous attendons. Voilà, les résultats sont là. C'est la violence qui continue. Et pourtant, les dialogues, comme j'ai eu à le dire, c'est un mécanisme de prévention de la violence. Est-ce que ce dialogue-là en est un? Je doute, et tout le monde le doute d'ailleurs.
Alors, selon cet auditeur, l'indisponibilité d'un fichier électoral fiable ou l'objet pour lequel la marche a été convoquée reste impossible à atteindre cette année au regard de l'indisponibilité du fichier électoral. Par conséquent, toutes les manifestations et marches deviennent sans objet. Vous êtes d'accord avec lui, on n'a pas besoin d'organiser des marches pour ça, puisqu'on sait que c'est impossible d'organiser l'élection dans le délai, comme demande, comme le veut la Constitution.
Alors, si vous suivez, il y a trois possibilités qui étaient données. La première, recourir à l'ancien fichier. Et avec l'ancien fichier, il y avait moyen d'organiser les élections dans le délai.
seulement il posait un certain nombre de problèmes parce qu'on évacuerait un certain nombre d'électeurs qui remplissent les critères. Et c'était possible d'organiser avec la première option. La deuxième et la troisième ne donnent pas la possibilité. Alors, il fallait que le dialogue résolve le problème. Et il fallait que ce dialogue soit un dialogue de toutes les forces politiques. Et là, il y a le problème.
Merci. Et, allô?
Oui.
Oui, professeur.
Oui. Ce que je vais dire aussi, c'est qu'au-delà du calendrier électoral, il y a un autre élément important. En fait, c'est que le chef de l'État aurait tout lui-même annoncé qu'en fait, il ne serait pas candidat. Et toute l'attention serait tombée. Cette annonce, elle est attendue depuis plusieurs mois. Tant qu'elle ne viendra pas, eh bien, l'opposition soupçonnera toujours la majorité de mijoter un mandat d'une manière ou d'une autre du chef de l'État Kabila. L'une des grandes recommandations, c'est qu'il faut que le chef de l'État sorte de son silence et annonce qu'il ne sera pas candidat. Il ne se représentera pas. Et que de toutes les manières, les élections se tiendront, mais sans lui.
Merci.
Ça va baisser fortement l'attention.
Merci, professeur Félicien. Professeur Moudine, il y en a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Matadi.
Si M. Simon Lounsonso depuis Matadi, les indicateurs de la situation politique congolaise sont au rouge. Et donc ce signal du feu rouge doit scrupuleusement interpeller la majorité présidentielle, car à mon humble avis, les stratégies multipliées par elles ne visent que la conservation du pouvoir, nonobstant l'échéance des mandats déjà brigués. Les événements d'hier expriment le mécontentement du peuple qui voudrait à tout prix l'alternance par la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Tel est le souhait du peuple. Les consultations n'ont abouti à rien sinon à la majestueuse recommandation de la formation du gouvernement soi-disant d'union ou de cohésion nationale. Et donc la population est vigilante, il n'est plus question à la démagogie de la majorité présidentielle.
Alors cet auditeur, professeur Jeff Moudimbi, aborde un peu dans le même sens que vous.
Oui, c'est pourquoi je me permets de dire que le raisonnement du compatriote n'est pas gauche. Donc il voit les choses presque dans le même sens que nous autres. Mais en effet...
Mais il y a des gens qui pensent qu'on peut sauver la situation en organisant, c'est le cas, c'est la Lucha qui a fait cette proposition, organiser l'enrôlement et la présidentielle le même jour. Vous pensez que c'est faisable?
Non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, je me dis tout simplement que à partir du moment où on peut, si on n'a pas de moyens, compter sur le soutien des partenaires internationaux, déployer le matériel électoral dans toutes les provinces et au même moment, je pense qu'il y a lieu, dans les meilleurs délais, de constituer déjà l'électorat et d'éviter un peu... tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, parce qu'il vous souviendra que même en convoquant le dialogue, il était dit ceci, que c'est pour prévenir les conflits post-électoraux. Mais vous vous rendez compte, en convoquant ce dialogue-là, on assiste à des conflits avant même l'organisation des élections. Et c'est ça ce qui choque. Et nous ne devons pas accepter vraiment que les Congolais puissent commencer à mourir comme s'ils étaient des sauterelles sur leur territoire, alors que il n'y a pas longtemps, je voudrais rappeler, quand le président de l'UDPS est arrivé à Kinshasa, on a loué la bravoure de la police, on a loué le professionnalisme de la police nationale congolaise. Et personne ne dira que ça ne dira pas que cette police-là n'a pas été provoquée par les gens qui étaient partis l'accueillir. Mais il y a eu vraiment un effort de dépassement et, mais curieusement, cette image de la police que nous avons louée tant, aujourd'hui, c'est le revers de la médaille. Alors, je voudrais, au regard aussi de tous les dégâts qui ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne les partis d'opposition, reconnaître un fait, que la police nationale, elle doit être réellement républicaine. Elle doit jouer son rôle, protéger aussi bien les membres de la majorité présidentielle que les membres de l'opposition. Et à ce moment-là, on aura foi. Et je me souviens ici, je me souviens d'une parole qui avait été prononcée par le président Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il voulait comparer un peu la police à la population. Il ne cessait jamais de dire que vous êtes comme l'eau dans l'eau, le poisson dans l'eau. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment cohabitation harmonieuse entre la police et l'armée. Mais, en clair, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que la classe politique congolaise doit faire montre du respect des textes constitutionnels, légaux et même réglementaires qui nous régissent. Et à ce moment-là, nous allons éviter ce pays de vivre toutes ces scènes macabres.
Alors, professeur, il y a la majorité qui estime que l'opposition abuse un peu trop de la bonne foi du gouverneur qui, chaque fois, donne son aval pour que cette dernière puisse organiser des manifestations à Kinshasa qui se soldent souvent par des casses.
Parce que...
Allô, professeur, vous êtes là ?
Devoir de la population. Le droit de manifester est reconnu à tout Congolais. Alors, on demande d'informer. Si on informe, c'est pour permettre à l'autorité de prendre des mesures d'encadrement nécessaires. Donc, il revenait donc à l'autorité de tout faire pour éviter le débordement. Et éviter le débordement, madame, n'implique pas que l'on tire sur les vies humaines. Il y a plusieurs procédés, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité des personnes et de leur bien-être, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir de manière à ce qu'on puisse contenir les manifestants en évitant bien entendu ici les pertes en vies humaines.
Merci professeur. Monsieur Ondo, on a aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Docteur Moïse Tshimela de Lubumbashi, étant donné que la majorité au pouvoir est responsable du retard connu pour l'organisation de la présidentielle dans les temps constitutionnels, elle doit donc se réfléchir en sortant le président Joseph Kabila de son silence, en annonçant clairement au peuple de son cas après le 20 décembre. Puisque tout ce qui se passe, c'est plus que le dialogue qui est actuellement à la Cité de l'Union africaine ne rassure pas le peuple. Donc il serait mieux de suspendre et de rencontrer le rassemblement pour déclencher un vrai dialogue et déclencher un véritable consensus au lieu de défier le peuple.
Monsieur Ondo.
Je pense que l'auditeur a relevé certains éléments qui ont été développés précédemment. Il parle de la responsabilité du pouvoir, de la majorité qui est au pouvoir. C'est un point important parce que quand on parle du dialogue, tout le monde veut aller au dialogue. Mais avant d'aller au dialogue, il faut commencer d'abord par établir les responsabilités de la situation actuelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à une situation qui fait que techniquement, on ne peut pas organiser les élections. Et que si ces responsabilités sont établies, il faut que les auteurs puissent assumer. Et ce n'est que par après, on peut envisager un dialogue dont le seul but est de sauver le processus démocratique par le respect de la Constitution. La deuxième chose, on sait qu'aujourd'hui, il y a un acteur important qui peut à lui seul décrypter la crise. Ça a été dit par un des professeurs tout à l'heure.
Le professeur Félicien, vous pensez que si le chef de l'État se prononce aujourd'hui, cela pourrait apaiser ou calmer les esprits?
Se prononcer, oui. Ce qui est d'abord triste, madame, c'est à deux reprises qu'on constate, que ce soit bien, que ce soit en 2015, en janvier, ou aujourd'hui, le pays est plongé dans une situation chaotique. Tous les médias du monde en parlent, personne aujourd'hui, aussi bien ni les chefs de l'État, encore moins le Premier ministre, ne s'exprime, ne fût-ce que pour adresser un message à la nation. Alors que on a la coutume de dire que voilà, c'est le père de la nation, la nation qui est censée être sa famille est en train d'imploser, est en train d'éclater. Où est le chef de l'État? Dans des pays normaux, quand il y a ce genre de situation, le président, quelle que soit l'ampleur de la réunion, interrompt tout, rentre au pays pour essayer de remettre de l'ordre. Et c'est aussi des signes de mépris, d'indifférence. Et là, je pense que le président Kabila jette la pierre clé et il va lancer un message, un signal fort. D'abord, calmer la population et calmer ses troupes parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, il y a, en termes de gestion de l'ordre public, il y a la notion de procédé technique qui parle de la gestion de l'espace, la gestion commune de l'espace public. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de manifestation, au-delà de l'arrangement entre les autorités administratives qui accordent l'autorisation de manifester, mais il y a aussi des réunions préalables qui se mettent en place entre les autorités policières pour canaliser les manifestants. Mais généralement, qu'est-ce qu'on a, on voit, quand un itinéraire est décidé ou est convenu, les policiers ou les unités anti-émeutes barricadent le route et le chemin et interdisent aux gens d'emprunter ce qui a été décidé. Et cela ne peut que entraîner la violence ou susciter des réactions assez violentes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut un message fort et ce message, c'est le seul message qui peut apaiser et un message qui doit clarifier que, voilà, il ne sera pas déjà candidat aux élections et qui fera tout pour que les élections soient organisées assez rapidement. Le débat sur le fichier électoral et consorts, madame, un débat qui a été faussé dès le départ, parce que quand vous suivez même le rapport de l'OIF, on ne parlait pas d'information à un nouveau fichier. Et qui me dit qu'aujourd'hui, le nouveau fichier qu'on va constituer ne sera pas...
Merci, M. Rondo, professeur Félicien Kabamba. Nous sommes presque à la fin de notre débat de ce soir. C'est quoi la solution aujourd'hui pour essayer de décrisper la situation?
Alors, la solution réside à un véritable dialogue entre toutes les forces politiques. C'est vrai qu'il y a déjà une partie des forces politiques qui sont réunies, qui dialoguent, mais à elles seules, elles ne pourront pas trouver un consensus qui pourra être acceptable par tous. Il faut absolument que le rassemblement soit approché, que les autres qui se réunissent approchent le rassemblement.
Il faudra que le rassemblement soit plus flexible, puisqu'on l'a approché plusieurs fois.
Non, moi je ne suis pas dans la rhétorique des impossibilités. Moi je crois que c'est bien possible. Il faut négocier avec le rassemblement. Il a un certain nombre de préalables. Il y a certains préalables qui peuvent être réalisés. C'est possible. Moi je trouve que cela est possible. C'est de cette manière-là qu'on peut arriver à construire un véritable consensus autour du calendrier électoral et on peut éviter par ce fait la violence.
Merci professeur Félicien Kabamba, professeur Jeff Mudimbi, votre solution.
Oui, la SDC brûle. Et nous avons le premier citoyen qui est ici le chef de l'État. Les obligations constitutionnelles lui imposent de s'impliquer pour que la paix soit rétablie sur l'ensemble du pays. Donc nous demandons au président de la République de s'impliquer pour que la RDC puisse resplendir. Et aux acteurs politiques, nous leur disons aussi que l'ivresse du lait est parfois a des conséquences parfois fâcheuses que l'ivresse de la boisson. Et il me semble que beaucoup d'entre eux sont ivres de lait. Ils reviennent à la raison.
Merci,
et qu'ils
professeur Moudimbi. Monsieur Hondo, votre conclusion.
La conclusion, il n'y a pas de solution comme telle, mais surtout appeler les autorités congolaises d'être à l'écoute de l'expression populaire. Et de comprendre ce que veut la population, et de ce fait, le président Kabila doit prendre ses responsabilités pour mener le Congo à bon port C'est simple. On a eu l'exemple de Haïti et de Haïti, et on en parle pas. Mais à un certain moment, il faut savoir tirer des conclusions et prendre sa responsabilité. On s'en compte qu'on est plus en mesure de pouvoir diriger le pays convenablement.
Merci, monsieur Wondo. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.